Et une bonne partie de notre activité, c'est plutôt de défendre le logiciel libre et la liberté dans l'ère du numérique, notamment par rapport aux droits de licence que je parlerai après. C'est un certain nombre de dangers qui nous menacent. Alors avant de commencer, ce que je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un déjà a entendu parler des termes DMCA, EUCD, copy control, etc.
Entendu ou pas entendu?
Entendu parler.
D'accord, ok.
Donc si j'ai bien compris, disons que c'est un peu informaticien dans la salle. Une notion essentielle pour comprendre le logiciel libre, et qui est souvent méconnue des gens qui ne connaissent pas l'informatique, c'est comprendre la notion de code source. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de code source. On va prendre un exemple. On va imaginer tout simplement dans le monde des plats, des recettes de cuisine. Vous avez deux formes finalement d'un plat. Vous avez le plat cuisiné tel que vous le connaissez, c'est-à-dire une fois qu'il était passé au four, etc., que vous mangez. Et ce plat cuisiné, avant que vous le connaissiez, il y a une recette de cuisine. Et il y a un processus qui permet de passer de la recette de cuisine au plat cuisiné. Il paraît évident que pour modifier une recette de cuisine, il est beaucoup plus facile de disposer de la recette de cuisine que du plat cuisiné. Et de même, il paraît évident qu'à partir du plat cuisiné, il est relativement difficile de revenir à la recette de cuisine. On peut à peu près, grâce au papier gustatif, découvrir quels sont les ingrédients. Mais déjà, les proportions sont plus difficiles. Puis surtout, le processus qui a suivi la recette, les ingrédients, c'est quasiment impossible. Donc, dans la recette de cuisine, au monde de la cuisine, vous connaissez donc les plats cuisinés et les recettes de cuisine. Ben, si on fait pareil avec les logiciels, la forme la plus connue des logiciels, telle que vous la connaissez dans le logiciel propriétaire, c'est la forme plat cuisiné. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la version exécutable du logiciel. C'est une version du logiciel qui n'est compréhensible que par la machine, qui s'exécute sur la machine. C'est fait de code assez ésotérique que la machine comprend et qui rend un service. Comme un informaticien, lui, il n'écrit pas le code exécutable directement. Ce qu'il écrit, il écrit dans un code source, donc la recette de cuisine du logiciel. Et il y a un processus plus ou moins automatique qui permet de passer du code source dans un langage de programmation. Un langage, c'est simplement comme le français, par exemple, il y a des mots, il y a de la grammaire, etc. Donc il y a un processus automatique qui permet d'arriver à la version exécutable du logiciel. Qui donc s'exécute sur la machine. Et ça, c'est fondamental de comprendre cette notion de code source, c'est que le code source, c'est la forme préférée dans laquelle les informaticiens écrivent le logiciel. La forme exécutable, c'est la forme telle que vous la connaissez aujourd'hui dans le logiciel propriétaire. Et on va voir que l'accès au code source et un certain nombre de libertés liées au code source font la définition du logiciel. Et de cette définition, je vous expliquerai après, découle un certain nombre d'avantages techniques et sociaux pour le logiciel libre. La première chose à bien comprendre, c'est que dans l'informatique, un informaticien écrit un programme dans un langage de programmation, un code source qui correspond à une recette de cuisine. Ceci est bien clair, pas de souci. On va imaginer un monde où on prend une recette de cuisine absolument qui n'existe pas, qui s'appelle par exemple les beignets Zéphyr. On va imaginer un monde où ces beignets Zéphyr ne sont disponibles que tout près. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, vous commandez les beignets Zéphyr, on vous les apporte, vous les mangez. Vous allez dans votre magasin du coin, en surgelé, vous allez baigner les zéphyrs, vous pouvez les mettre dans votre four à micro-ondes, vous pouvez les manger. Ils sont disponibles que tout près. Il n'y a pas la recette. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre magasin, au bout de la barquette, vous n'avez pas la recette des beignets zéphyrs pour le faire vous-même. En plus, personne n'aurait l'idée de demander la recette des beignets zéphyrs. C'est-à-dire que vous allez chez un ami qui vous fait les beignets zéphyrs, vous n'avez jamais entendu parler, vous avez trouvé ça très bon, vous avez envie de les refaire pour éventuellement les améliorer, les adapter à votre propre goût, mais vous n'avez même pas l'idée de demander la recette. Ce monde aussi n'existe pas. Un monde où finalement, les recettes de cuisine ne sont pas disponibles, les plats ne sont disponibles que tout cuisiné. Pourtant, dans le monde de l'informatique, c'est exactement le monde que la majorité des gens connaissent aujourd'hui, c'est le monde du logiciel propriétaire, dans lequel en fait la seule forme de logiciel qui est disponible, c'est la version exécutable. Quand vous avez un logiciel dit propriétaire, comme par exemple Word ou Windows, vous l'avez uniquement sous la forme exécutable. Sa recette de cuisine, son code source, n'est pas disponible. Et en plus, il vient personne à l'idée de demander la recette de cuisine. Et en plus, on ne vous la donnera pas. Pourtant, on va voir que c'est important d'avoir la recette de cuisine. Donc ce monde, qui paraît absolument hallucinant dans le monde de la cuisine, qui paraît naturel pour tout le monde dans la cuisine, d'avoir les recettes, de les modifier pour les adapter à son goût, etc., existe dans le monde du logiciel, c'est ce qu'on appelle le logiciel propriétaire, depuis le début des années 80. C'est finalement relativement récent, ça date d'une vingtaine d'années. Alors, historiquement, ça remonte aux États-Unis avec un certain nombre de procès. Mais voilà, dans le monde du logiciel propriétaire, on n'a que le plat cuisiné, on n'a pas la recette de cuisine. Alors que dans le logiciel libre, c'est exactement le contraire. On a les deux versions, c'est-à-dire que le plat cuisiné arrive avec sa recette. Le logiciel, la version exécutable, est disponible avec sa recette. et avec un certain nombre de libertés. Donc, j'ai expliqué les quatre libertés du logiciel libre. Une fois que j'aurai fini, vous saurez ce qu'est le logiciel libre. Tout le reste, après, c'est soit la technique, soit des aspects juridiques dont je vais parler. Mais les quatre libertés, c'est l'essentiel. Alors, première liberté, elle ne concerne pas directement le code source, elle concerne la version exécutable du logiciel. Une fois que vous êtes procuré un logiciel libre, ah oui, logiciel libre, le mot vient de free software en anglais, qui a une connotation en anglais, qui a deux sens possibles, qui est free dans le sens de gratuit, et free dans le sens de libre. Pardon ?
Ouvert ?
Non, open, c'est ouvert en anglais. Free, c'est libre ou gratis. Mais dans le logiciel libre, il faut le prendre dans le sens de libre, comme dans libre expression, libre échange, libre marché, et pas comme bien gratuit. C'est très important parce que ce n'est pas un modèle qui s'oppose forcément au modèle marchand, c'est un modèle qui s'oppose à l'appropriation des connaissances, mais pas forcément au modèle marchand. Donc quand vous pensez à logiciel libre, ne pensez pas à gratuité au départ, pensez vraiment aux libertés que je vais expliquer. Et la première, c'est celle qui concerne simplement l'utilisation. Quand vous avez un logiciel libre, vous êtes procuré. Et quelle que soit la façon dont vous l'êtes procuré, car soit vous l'avez acheté dans un magasin spécialisé, soit quelqu'un vous en a fait une copie, vous avez la liberté d'utiliser quels que soient les usages dont vous avez besoin. Et si vous voulez installer sur votre machine personnelle, vous avez le droit. Si vous voulez installer sur la machine de votre ami, vous avez le droit. Si vous avez envie d'installer sur la machine de votre boulot, vous avez le droit. Vous n'êtes pas limité par une licence d'utilisation qui vous dit que vous avez le droit d'utiliser ce logiciel que dans tel cadre, par exemple sur une machine. Non, vous avez une liberté totale d'utilisation du logiciel. Alors ça concerne que la forme exécutable, ça ne concerne pas pour l'instant le code source. Mais vous avez la liberté d'utilisation, complète et absolue. La deuxième liberté, qui concerne maintenant un peu plus le code source, c'est que vous avez la liberté de pouvoir voir le code source, donc la recette de l'usine qui correspond au logiciel exécutable, et d'étudier son fonctionnement. Après, c'est intéressant de pouvoir voir le code source d'un logiciel et d'étudier son fonctionnement. Mais pensez tout simplement à un plat cuisiné. Si vous voyez un plat cuisiné, vous avez du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Mais quand vous voyez uniquement la forme exécutable d'un logiciel, la seule façon dont vous avez de vous rendre compte du fonctionnement de ce logiciel, c'est par ses interactions avec vous. C'est-à-dire quand vous cliquez sur un bouton, il fait telle action. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement derrière? Vous n'en savez rien. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, Microsoft Word, par exemple, quand vous sauvegardez des données, vous avez un texte, vous sauvegardez en point doc, le résultat final, vous avez un point doc, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait, sous quelle forme il a mis ces données, et ce qu'il en a fait exactement. Donc il est important d'avoir accès au code source d'un logiciel, tout simplement pour comprendre comment il fonctionne. C'est la façon la plus simple. Si on a le code source, on a l'ensemble des procédures qu'il fait. Et on peut étudier son mode de fonctionnement. Alors en termes de sécurité, ça a des avantages. Il est évident qu'on est beaucoup plus certain d'une sécurité dans le cadre d'un logiciel dont on a le code source et qu'on peut l'étudier, que dans le cadre d'un logiciel propriétaire dont on ne peut pas étudier le fonctionnement. Pensez également, par exemple, aux mathématiques. On vous donne un théorème. Si on ne vous donne pas les étapes pour arriver au théorème, vous aurez du mal à comprendre le théorème. Si on donne toutes les étapes, vous comprendrez beaucoup plus comment le théorème fonctionne. La deuxième liberté en fait, que vous avez sur le logiciel libre, c'est de pouvoir étudier son code source. Ce qui, en termes aussi éducatifs, est intéressant. Si vous apprenez l'informatique, par exemple, il est intéressant de voir comment du code a été écrit par d'autres personnes pour vous en inspirer, voir comment il a mis en place des algorithmes. Il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est juste écrire dans un langage de programmation des algorithmes mathématiques, finalement. Donc ça, c'est la deuxième liberté. Cette liberté ne vous concerne que vous, finalement, en long. La troisième liberté, c'est de se dire que c'est bien de pouvoir faire et de pouvoir étudier le code source d'un logiciel. Seulement, c'est un peu frustrant si on ne peut pas le modifier. Modifier un logiciel. Alors, on va dire, pourquoi modifier un logiciel? On a un logiciel, il est livré, il fonctionne. Alors, il y a deux raisons principales qu'on doit pouvoir modifier un logiciel. La première, c'est qu'un logiciel n'est pas un objet fini. Ça, c'est une chose essentielle à comprendre, ce n'est pas un objet fini. Car ce stylo, par exemple, il permet d'écrire. Il n'y a pas de raison spécifique de l'améliorer. Il permet de rendre son service. Un logiciel, par contre, il a un certain nombre de fonctionnalités à un instant T. Au moment où il a été écrit, il a un certain nombre de fonctionnalités. Seulement, peut-être qu'il a besoin d'autres fonctionnalités. Imaginez un traitement de texte, par exemple. Un traitement de texte, il y a quelques années, c'était juste pour écrire du texte. Il n'y avait pas de correcteur orthographique. Ben, ça paraît utile de rajouter un correcteur orthographique sur un traitement de texte. Ça paraît être une amélioration naturelle. Donc, une des raisons pour lesquelles on peut devoir modifier un logiciel, qu'il soit libre ou pas d'ailleurs, c'est tout simplement rajouter des fonctionnalités qui sont manquantes. Ça, c'est la première raison. Un logiciel, c'est vraiment pas un objet fini. On doit toujours pouvoir le modifier. Parce qu'il y a toujours des fonctionnalités à rajouter. Et la deuxième chose, c'est que, là, je vous disais, de Windows, on connaît bien cet univers, c'est les bugs. Les bugs, les erreurs de programmation. Un logiciel, c'est quand même relativement compliqué à écrire. Vous pensez que, par exemple, dans un système d'exploitation, si on compare par rapport à un avion, c'est complexe, tout le monde se rend compte. Pourtant, dans un ordinateur, il y a plus de composants que dans un avion. Et ces composants interagissent ensemble. et ils ne sont pas forcément écrits par les mêmes personnes. Donc c'est relativement complexe. Aussi, qui explique, qui est des bugs, des erreurs de programmation. Il y a peut-être des bugs volontaires, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais là je parle vraiment des erreurs simplement de programmation. Tout, vous écrivez du code, vous êtes un être humain, vous faites une erreur, vous en rendez pas compte tout de suite. Donc, une deuxième raison pour modifier le logiciel, c'est de simplement corriger les bugs. Donc on voit tout de suite que dans le logiciel libre, on a un avantage d'avoir cette troisième liberté, qui est la liberté de modifier le code source, c'est que n'importe qui peut soit rajouter une fonctionnalité, soit corriger un bug. Si on regarde par rapport au logiciel propriétaire, le seul qui a ce droit dans le logiciel propriétaire, c'est l'éditeur du logiciel, c'est-à-dire la société qui édite le logiciel. Majoritairement des gens comme Microsoft, Mac, etc. Enfin, Apple, etc. Dans le logiciel libre, tout le monde a ses libertés. Ça, c'est la troisième liberté qui vous concerne finalement encore que vous. Finalement, vous avez le logiciel, vous avez un peu de connaissances informatiques, vous avez un copain informaticien qui vous rajoute une fonctionnalité ou qui vous corrige un bug. Et la quatrième liberté, c'est cette liberté qui permet finalement de passer de l'état individuel à la communauté, à la création d'une communauté. C'est la liberté de redistribuer des copies du logiciel. Vous êtes procuré un logiciel libre, vous avez les trois libertés que j'ai déjà expliquées, mais vous avez en plus la liberté d'en redistribuer des copies. Que ce soit des copies de la version originale, par exemple Thierry me fait une copie d'un logiciel, je l'installe sur ma machine, un copain là fait cette version du logiciel, j'en fais une copie, je diffuse la version originale. Mais j'ai aussi le droit de diffuser la version modifiée. Quelqu'un me passe un logiciel, je l'utilise, par exemple il y a un petit bug, je suis informaticien, j'arrive à le corriger, j'ai le droit de rediffuser cette version modifiée. Et je dirais même que je suis encouragé à rediffuser cette version modifiée, de manière à faire profiter l'ensemble des gens de ma correction. Ça, c'est la liberté de rediffuser des copies. Et c'est la liberté qui permet de passer vraiment de l'état individuel, on n'est concerné que nous-mêmes, à l'état de création d'une communauté de gens, qui vont utiliser principalement les réseaux électroniques, pour créer des logiciels, en rajoutant chacun des fonctionnalités et en corrigeant chacun des bugs, mais sans réécrire chaque fois des choses qui ont déjà été réécrites. Donc le logiciel libre, c'est vraiment que ça à la base, c'est quatre libertés, c'est utilisation, étude, modification, redistribution, et ces quatre libertés font le fondement du logiciel libre. Et si on compare par rapport au logiciel libre, si on prend ces quatre libertés, lesquelles on a? Si on prend la liberté d'utilisation, la liberté d'utilisation de logiciel propriétaire est très encadrée. Vous avez une licence d'utilisation qui vous dit que vous avez le droit d'utiliser votre logiciel sur une machine. Si vous l'utilisez sur 10 machines, vous payez plus cher. Ou peut-être que vous n'avez pas le droit. Donc la liberté d'utilisation est très limitée. Quant à la liberté d'étude du code, modification, redistribution du code, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas le code source. Donc vous voyez la différence logiciel propriétaire et logiciel libre, c'est là. Dans un cas, vous avez 4 libertés, dans un cas, vous avez une demi-liberté. Et une chose importante, j'emploie bien le terme logiciel propriétaire, ou certains diraient privatif, mais pas le logiciel commercial. Le logiciel libre s'oppose à le logiciel propriétaire dans le sens que le logiciel propriétaire, il y a une seule société qui est possesseur du code source et qui a les droits de modification dessus. Le logiciel commercial, c'est un logiciel qu'on vend. On peut très bien vendre du logiciel libre. Il y a des gens qui vendent du logiciel libre. Thierry en fait partie, j'en fais partie. On expliquera comment après. Ça ne s'oppose pas. Donc il ne faut pas opposer logiciel libre à logiciel commercial. C'est vraiment logiciel libre à logiciel propriétaire. Là, vous avez des logiciels propriétaires qui sont gratuits. Internet Explorer est gratuit. C'est le chèque qui est livré comme ça. Donc le logiciel libre, c'est quatre libertés. Utilisation, étude, modification, redistribution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça permettra de voir mes bières. Alors si on prend sur le monde des beignets Zephyr, ben là, on a le monde des beignets Zephyr libres qui vous paraît tout à fait commun. C'est-à-dire que vous avez la liberté de quoi? Ben, vous avez la liberté d'avoir la recette, enfin d'abord de cuisiner les beignets Zephyr, d'avoir la recette.
Tu nous parles de beignets Zephyr, la plupart ne connaissent pas ce que sont des beignets Zephyr.
Alors, c'est un mot que j'ai trouvé un jour sur Internet, je n'ai jamais cuisiné cette recette. Donc, vous pourrez n'importe quelle recette, une pizza, etc. C'est un mot qu'on a trouvé un jour sur Internet.
Pour expliquer un peu ce que sont les beignets Zephyr, on peut peut-être faire des comme exemples du logiciel libre.
C'est un exemple.
Il faut expliquer le logiciel libre, c'est plus ça les beignets Zephyr.
Donc, si on voit sur le nom de la cuisine libre, ben voilà, c'est, vous avez la liberté de cuisiner vos plats, vous avez la recette, vous pouvez étudier, vous pouvez adapter, vous pouvez modifier, et puis vous pouvez redistribuer entre vous les recettes des beignets Zephyr, soit originaux, soit améliorés. Donc, ça, c'est pour vous présenter, je dirais, le concept du logiciel libre. Alors, il y a une autre façon de présenter le concept du logiciel libre, ça, c'est la version, on va dire, telle qu'elle a été définie par Richard Stallman, dont je parlerai tout à l'heure, au début des années 80. Et une autre façon, on peut aussi Richard Stallman, qui est un Américain, il définit les logiciels libres en trois mots. Quand je dis que c'est un Américain, c'est important, parce que si c'était un Français, ça serait un peu moins intéressant. Il est défini par ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Et vraiment, il est défini comme ça. Quand il fait des conférences en France, il est défini comme ça. Pour lui, le shérif, c'est liberté, égalité, fraternité. Parce que d'abord, c'est liberté, parce qu'il y a les quatre libertés dont j'ai parlé tout à l'heure. Égalité, parce que tous les utilisateurs, quels qu'ils soient, ont les mêmes droits par rapport à ces quatre libertés. C'est-à-dire que vous soyez un simple utilisateur, une petite société, une grande société, une grande compagnie ou un gouvernement, vous avez les mêmes droits. Vous avez un logiciel libre, vous avez ces quatre droits. C'est pas parce que vous êtes une grande société que vous aurez plus de droits qu'un petit particulier, ce qui est contraire au cadre du chef propriétaire. Et fraternité, parce qu'au départ, le but du logiciel libre, c'est de construire ensemble des logiciels de façon coopérative, de créer une communauté de développeurs de logiciels libres et d'utilisateurs de logiciels. Et c'est pour ça qu'il emploie ces termes de liberté, égalité, fraternité. Et c'est important aussi de dire ça, parce que le logiciel libre, c'est pas qu'une question de technologie, c'est-à-dire, quand on parle tout à l'heure des avantages techniques du logiciel libre, c'est pas qu'une question de technologie ou une question de licence. Parce qu'il y a aussi des licences dans le logiciel libre, mais on utilise des licences différentes. C'est aussi une philosophie. On fait avant tout du logiciel libre pour une question de philosophie. Et pas pour une question de coût, parce qu'on verra que les questions de coût sont des arguments qui peuvent très, très rapidement renverser. Donc bien garder à l'esprit, au départ, des gens qui ont conceptualisé le logiciel libre, que c'est d'abord une philosophie basée sur liberté, égalité, fraternité. Donc, je parlais un tout petit peu de l'historique, en fait, mais alors très rapidement. C'est difficile de donner un point de départ sur le logiciel libre. C'est très difficile. On peut donner un point de départ de la conceptualisation du principe du logiciel libre, c'est au début des années 80, où MIT, qui est un laboratoire américain, ils font de la recherche scientifique. Et au début des années 80, arrivent les premiers logiciels dits propriétaires, c'est les fameux premières licences d'utilisation de logiciels. Et à l'époque, dans les années 80, il y a des communautés de ce qu'on appelle des hackers. Alors des hackers dans le sens de développeurs de génie, de bidouilleurs, pas dans le sens de pirates. Vraiment des hackers qui à l'époque avaient l'habitude de s'échanger du code. Pour eux, c'était tout à fait naturel, c'était pas formalisé. À l'époque, le logiciel propriétaire n'existait pas en tant que tel. Et puis le logiciel propriétaire a commencé à exister, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée de rendre propriétaire le logiciel. Et donc la communauté des hackers s'est trouvée face à un dilemme. Donc, certains sont partis vendre très cher leur talent pour faire le logiciel propriétaire. Et un certain nombre d'autres, dont Richard Stallman, ont lancé l'idée de recréer une communauté qui développerait du logiciel libre, donc, basé sur les quatre libertés, avec comme objectif réellement de créer un système d'exploitation complet en logiciel libre. Quand j'entends système d'exploitation, c'est-à-dire les couches basses, la plomberie, comme dans une maison, jusque tous les applicatifs, pour faire du traitement de texte, pour faire du courrier électronique, pour refaire des images, des photos, etc. L'ensemble des besoins qu'un utilisateur couvert en logiciel libre. Donc ça, c'est au début des années 80. Et si on y réfléchit bien, en fait, chez Lips, on peut remonter encore plus loin, parce que finalement, c'est quoi le principe du logiciel libre ? Ben, c'est la publication, c'est la transparence, c'est la revue par les pairs. Donc c'est finalement, comme on est dans la fête de la science, c'est finalement le modèle scientifique appliqué au développement logiciel. On publie, c'est transparent, il y a une revue par les pairs. Donc finalement, quelque part, Stallman a simplement réinventé, je dirais entre guillemets, la recherche scientifique dans le mode de développement du logiciel. Et ça, c'est au début des années 80, il lance ce projet seul, avec quelques personnes, 2-3 personnes. Et donc en 23 ans, le début officiel, en fait, c'est le 4 janvier 2004, donc il y aura 20 ans l'année prochaine. Donc en 20 ans, en fait, on est passé de zéro quasiment logiciel libre, tel qu'on le connaît aujourd'hui, à aujourd'hui des systèmes d'exploitation complets, utilisables par des utilisateurs, je dirais, de base de l'informatique. En 20 ans, des informaticiens, des sociétés ont participé au développement de ces logiciels libres, sous différentes formes. Et le succès du logiciel libre dans le grand public est relativement récent parce que ce qui d'abord a été développé, c'est vraiment la plomberie informatique, c'est-à-dire la base du système d'exploitation, les réseaux, les outils de développement, les trucs qui ne sont pas franchement user-friendly, comme on dit, c'est plutôt de la ligne de commande, il n'y a pas des interfaces graphiques. Ça, c'est arrivé un peu plus tard, mais aujourd'hui, on a des systèmes libres. On peut dire que le but de Richard Stallman a été atteint et continue d'être atteint, vu qu'un utilisateur peut utiliser le logiciel libre pour tous les usages. Après, en fonction de certains usages, il y a peut-être encore quelques petits manques pour arriver à des niveaux dits professionnels, mais de façon considérable, le logiciel libre a envahi, je dirais, la sphère de l'informatique.
Excusez-moi, ouais. N'était pas plus simple, j'irais, dans les années 80, pour les gens qui programmaient, de s'échanger des codes qu'aujourd'hui, j'irais, au niveau c'est arrivé. Physique, au départ, ils sont partis dans une lutte de s'échanger des codes, et pour eux, c'était normal. Ouais. Mais est-ce qu'à leur époque, c'était pas plus simple qu'aujourd'hui ?
C'était pas plus simple qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'est beaucoup plus difficile de s'échanger du code, parce qu'à l'époque, Internet était très peu développé. bien se souvenir de ça, en fait, l'échange de code était plutôt réservé à des communautés physiques, c'est-à-dire présentes dans les labos physiques, en fait, entre eux. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'échange de code ne concerne pas uniquement des gens qui sont physiquement à la même place, mais des gens qui sont physiquement à des places différentes.
Mais est-ce que les codes, dans ces cas-là, ils n'ont pas évolué? Est-ce qu'ils n'étaient pas plus simples il y a 20 ans que maintenant?
Non, ils n'ont pas forcément évolué. Non.
En termes de volume, oui, mais pas en termes de complexité.
Pas en termes de complexité, parce que la plupart des algorithmes qui font de l'informatique sont connus depuis longtemps. En termes de complexité, non, en termes de volume, oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que le logiciel libre s'est vraiment démocratisé et son développement a explosé avec la démocratisation d'Internet. Parce que tout simplement, ça a permis à de plus en plus de développeurs d'être connectés en réseau, de pouvoir travailler ensemble. Et en plus, ça a mis les utilisateurs en connexion directe avec les développeurs. Au début, quand Stallman a lancé le projet GNU, pour se procurer du logiciel libre, il fallait passer commande aux États-Unis pour recevoir une bande magnétique. Aujourd'hui, tu vas un logiciel libre, tu vas dans un magasin, ou tu le télécharges sur Internet. Moi, quand j'ai commencé à utiliser le logiciel libre, par exemple, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'était au début des années 90, Internet était très peu développé, c'était principalement encore dans les facs, donc c'était relativement compliqué de se procurer du logiciel libre. Aujourd'hui, c'est très simple. Même des gens, et c'est le sujet après que je vais en parler, qui font des distributions qui, en fait, c'est sur une galette, enfin, sur un CD, c'est du logiciel libre, c'est déjà installé. Mais clairement, le réseau Internet a permis de démultiplier le nombre de développeurs et d'utilisateurs et a fait qu'on est arrivé à une masse critique qui, aujourd'hui, permet de développer des logiciels libres dans tous les domaines.
Monsieur, moi je pense aussi, et le grand génie de Richard Stallman, c'est d'avoir su anticiper, justement, c'est là-dessus que c'est balèze, vraiment peut-être 30 ans, 40 ans à l'avance, les problèmes qu'on se pose aujourd'hui par rapport à l'OMC. Et d'après moi, problème auquel les altermondialistes qui sont encore restés dans l'ancien monde de Nord-Sud, du GATT, etc., n'ont pas encore eu tous les outils intellectuels pour comprendre les enjeux d'une mondialisation de réseau. Et d'après moi, tous les enjeux sociétaux qui se posent aujourd'hui dans une réflexion politique, etc., les fondements ont été basés par Richard Stallman dès cette époque. Ça fait vachement complexe. Et ensuite, on sortait de quoi? On sortait des années 60, on sortait de l'international situationniste, et l'anti-copyright des situationnistes, objectivement, il a débouché sur une impasse. La pensée de Stallman, elle a débouché finalement sur quelque chose qui a fonctionné.
Franchement, quand tu parles de l'anti-copyright des...
Tu vois. Donc c'était vachement balèze de lancer ce mouvement à 3-4.
L'anti-copyright, ça me fait encore de beaux jours devant lui, chez certains milieux artistiques encore.
Alors, quand tu me chantes, quand tu parles de l'anti-copyright...
On pense que c'est toujours au procès de Guy Debord à la fin de sa vie, qu'on sait les éditeurs, c'est la négation de ce qu'il a gravé. Et ça se termine toujours. C'est-à-dire que ce que Fred il parle, c'est que la première lutte historique contre les brevets commence avec le mec qui fabrique le premier ordinateur, qui s'appelle Van Neumann, qui se bat devant les tribunaux pour que les principes de l'ordinateur appartiennent à l'humanité et ne soient pas sujets à une prise de brevet. Et tout de suite après, IBM rajoute une fonction. Au domaine public qu'avait fait Von Neumann, et donc de nouveau brevet le tout. Donc Richard Stallman, quand il arrive quelques années après et qui voit l'irruption du logiciel propriétaire, il réfléchit à un système qui garantisse la pérennité d'une communauté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement innovant comme phénomène de défense sociale d'une communauté par un système juridique. Pardon. Oui, excuse-moi, Fred, voilà.
Quand tu parles du système juridique, en fait.
C'est ça aussi, pardon.
Il y a deux grandes forces dans ce qu'a fait Stallman et ce qui a suivi derrière. C'est, la première chose, c'est donc la volonté de créer un système libre. Mais c'est vrai qu'un système libre, l'informatique évolue dans un système juridique, clairement. Et sa deuxième grande force, ça a été de tenir compte du système juridique qui existait, qui existe toujours, qui est le droit d'auteur. C'est le logiciel dépend du droit d'auteur, encore aujourd'hui, heureusement. Et donc il a créé un outil légal qui, en fait, permet de protéger, entre guillemets, le logiciel libre, et notamment les quatre libertés. Donc il a créé ce qu'on appelle une licence publique générale, qui garantit en fait à tous les utilisateurs les quatre libertés du logiciel libre. Et ça, c'est une des grandes forces qu'a eu Richard Stallman, c'est à la fois de dire on va produire du code, c'est-à-dire qu'on va produire quelque chose qui est concret. Et à mon avis, c'est une des grandes forces du logiciel libre par rapport à plein d'autres domaines, à la base une grande philosophie, mais ça produit quelque chose de tangible, qui fonctionne aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est de dire je crée un système juridique. Un outil qui utilise le système juridique existant des droits d'auteur ou du copyright aux États-Unis pour protéger le logiciel, pour interdire à quiconque de s'en accaparer. Et quand on voit aujourd'hui les luttes qu'il y a sur tout ce qui est copyright, droit d'auteur en France, brevet, on se dit que cette création de cet outil juridique, qui évolue aujourd'hui dans le temps, est l'une des grandes forces de Richard Stallman. C'est-à-dire qu'il a produit du code, d'autres ont produit du code, mais il y a aussi une utilisation de l'outil juridique pour protéger ce code. Donc c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de licence d'utilisation, dans le logiciel libre, on a une licence publique générale, et le terme générique qu'on emploie souvent, c'est le copyleft. C'est un jeu de mots qui vient bien entendu de copyright. On inverse en fait le sens du copyright ou du droit d'auteur, qui en fait le droit d'auteur, c'est une réservation des droits au profit de l'auteur. Dans le logiciel libre, l'auteur dit j'ai mes droits sur le logiciel et je vous donne les libertés que j'ai définies. C'est fameuses quatre libertés. Mais par contre, il y a toujours l'auteur moral du logiciel. Donc ça, c'est sur la partie juridique, on en verra plus après. Quoi.
Est-ce qu'on peut faire juste un petit aparté
ouais.
Sur l'extension de la licence GNU en fait. Aux licences artistiques ouvertes. Guillaume a travaillé un petit peu dessus avec le groupe de la licence en libre. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, tout à fait.
C'est après qui héberge leur
plateforme. Oui, tout à fait.
Non, mais simplement, enfin, on va en reparler vendredi soir lors de la. Ce principe-là qui a été appliqué à l'informatique, bien sûr, a intéressé beaucoup les artistes en France. Simplement, ouais, ça a été utilisé dans le domaine-là. Il y a beaucoup de licences qui sont nées, dans les communautés scientifiques. On a des scientifiques qui se sont dit qu'il fallait arrêter aussi de protéger, de mettre des brevets sur toutes les découvertes, etc. Donc, il y a certaines licences comme ça qui ont été appliquées. Qui peuvent être appliquées à des découvertes scientifiques, d'autres licences qui s'appliquent. En fait, ça a été dans les années 90, il y a beaucoup d'autres domaines, et artistiques et autres, qui se sont bien sûr inspirés du système Stallman. Je ne pense pas, je suis arrivé un petit peu après, mais ce qui peut qualifier le geste de Stallman, c'est quand même le pragmatisme, avant tout. C'est-à-dire, c'est pas la lutte, l'opposition directe et frontale. Ça rejoint ce que tu disais, quoi. C'est du pragmatisme, c'est dire bon, il y a le système du copyright en place, il y a ce système-là, ben, finalement on va l'utiliser pour faire quelque chose qui finalement dépasse ce système.
C'est un bon résumé. Souvent ce que je dis d'ailleurs dans le logiciel, c'est qu'on est simplement en train de construire une cité, à côté, donc chez le propriétaire, avec un certain nombre de choses et on dit simplement regardez comment la cité finalement elle est sympa, venez nous voir. Et les gens viennent de plus en plus nous voir. Et en fait, aujourd'hui, c'est plutôt les autres qui nous attaquent en disant « Il y a un danger, cette cité, elle attire de plus en plus de gens, donc on va essayer de les attaquer sur des plans juridiques. » Et c'est vrai qu'une des grandes forces de Stallman a été de mettre en place des outils juridiques pour protéger le logiciel libre. Et donc, l'une des grandes formes d'attaque, c'est de changer l'environnement juridique, pour dire « On va changer l'environnement juridique, donc là, on va vous avoir. » Donc, les tentatives d'extension, effectivement, brevet logiciel, on parlera peut-être un petit peu, mieux protéger l'expression de l'idée, on protège l'idée. Et c'est vrai que l'une des grandes forces de Stallman et de la FSF en général, de la Fondation pour le logiciel libre, c'est de tenir compte de ces deux aspects, c'est la production de code et la gestion des aspects juridiques, qui aujourd'hui occupent, on va dire, 50-50 du temps.
Tu parles justement de cette extension, mais aux États-Unis, le droit des brevets est quand même plus fort que ceux promus par Bruxelles, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais rien promis là-dessus. Mais pourtant, il n'y a pas plus de défaites du logiciel libre devant les tribunaux américains qu'en France. Donc, quelque part, il a fait un concept qui est difficilement attaquable, que ce soit à travers une juridiction ou à travers une autre.
Il y a un point, c'est que la situation a pas mal évolué aux États-Unis depuis quelques années, parce que le logiciel libre est devenu un acteur de plus en plus majeur. Et en plus, les brevets sont souvent utilisés par rapport à, plutôt pour l'instant, de façon offensive contre des petites PME, PMI innovantes par rapport en grande. Mais les auteurs de logiciels libres ne sont pas encore trop attaqués. Ça commence à venir. Quand on prend par exemple le problème des marques déposées, les trademarks, c'est relativement récent qu'on subit des attaques sur les trademarks. Donc par exemple, il y a un cas qui est
dans l'Astérix.
Voilà, c'est celui-là. Il y a quand même Werner Oeser qui avait un site qui s'appelle Mobilix, qui est le site sur les Unix en général libres, donc il a appelé ça Mobilix. Il s'est fait attaquer par les éditions Albert René et Uderzo sur le fait que Mobilix était une trademark d'Albert René parce que ça ressemblait trop à Mobilix, etc. Ils ont gagné en première instance.
Oui, je sais.
Mais ça, c'est relativement récent. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, le logiciel libre a une telle place qu'on commence à subir ce genre d'attaque. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas parce que les brevets effectivement existent depuis pas mal de temps aux États-Unis qu'on n'a pas subi d'attaque. Et puis en plus, il faut bien se rendre compte qu'il y a des bords entiers de logiciels libres qui n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas, il y avait des brevets. Ou il y a dû avoir un effort de développement de solutions alternatives sans brevets dans un certain nombre de domaines, notamment cryptographie, etc.
On a oui, quand même été. Mais l'exemple, c'est il y a 3-4 ans, les tentatives de Microsoft d'attaquer la LL, mais ils n'ont pas réussi. Et celle plus récente de Scope, sont aux opérations d'attaquer donc l'existence même, les fondements de.
Ils essayent,
mais je veux dire, leur tentative est avortée. Et même des fois, quand c'est une toute petite boîte qui attaque, on n'a pas trop de soucis désormais à se faire.
Excusez-moi, je ne suis pas d'accord.
Peut-être revenir un peu là-dessus. Sur l'affaire de Sto, de Microsoft.
Il y a aussi, on parle du côté français en fait, mais la GPL, la traduction, il n'y a pas une seule traduction officielle en fait. Et ensuite, lorsque vous parlez à un juriste, à chaque fois, enfin, il y a une licence en français, il y a toujours le droit d'auteur. Et enfin, moi j'ai entendu plusieurs fois dans des débats, voilà, il y a la GPL, mais le droit d'auteur il est inaliénable. Donc même si on refuse ses droits sous un GPL en fait, voilà, le concert.
Ouais, mais ça, la GPL est valide dans le droit français sans aucun souci. Le droit d'auteur français se distingue principalement du cadre de la sécurité technique, le fait qu'il y a les droits patrimoniaux et les droits moraux. Et c'est vrai que les droits moraux sont insensibles, c'est clair, mais la GPL ne dit pas que c'est des droits moraux, au contraire.
Je te rappelle qu'à un moment donné, il a failli me foutre une claque dans la gueule de Stallman, parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un, je ne suis pas informaticien, donc je venais idéologiquement des gens qui défendaient, qui étaient anti-copyright, parce que naïvement, moi j'ai vachement été éduqué par appris, parce que j'ai évolué politiquement, j'ai mieux compris le monde. Mais au départ, j'étais un petit peu un ancien gauchiste qui avait des schémas un peu vieux dans la tête, et donc j'avais tendance à critiquer le copyright américain et à défendre le droit d'auteur latin au nom de l'anti-impérialisme, etc., des vieux schémas. Et Stallman, il n'arrêtait pas de me contester, parce que Stallman est totalement contre le droit moral français. J'avais pas compris pourquoi. C'est que dans la philosophie, j'ai compris récemment, c'est dans la philosophie, j'ai compris grâce à un article de quelqu'un d'April, qu'on a hébergé tous les deux, un squatter. Sébastien Bondel, qui a traduit la cathédrale et le bazar. C'est pour la philosophie, mais j'ai mis du temps à piger. Pour la philosophie de la Fessapia Foundation, il distingue les œuvres d'opinion des œuvres fonctionnelles comme les recettes de cuisine, c'est-à-dire des choses qu'on peut améliorer. De ce fait, la GPL ne peut fonctionner qu'avec le copyright, elle ne peut pas fonctionner avec le droit latin qui est trop basé sur le droit moral, parce que le droit moral est fondé sur un droit où un artiste, quelqu'un qui fait une œuvre, a le droit de changer d'avis et de se réapproprier
C'est ce que je dis. Voilà, français à l'heure actuelle.
Ce que tu dis, Charlie, n'est pas vrai. La GPL s'applique dans le droit français, il n'y a aucun souci là-dessus. Qui est des imperfections, qui n'est pas une version officielle en anglais antique. Non, elle est possible, je suis désolé.
Pas normalement, non, puisqu'on met un copyright au début et ça, c'est
le copyright. Non, mais le copyright, c'est le copyright, la ligne de copyright n'a aucune valeur en France.
Bah, exactement.
Mais peu importe, parce que c'est un truc qui est aux États-Unis, effectivement, ça a un sens, mais le fait que ça n'a aucun sens en France, c'est pas grave.
Tu peux mettre ce que tu veux.
Mais il n'est pas contre, c'est ce qu'il veut dire.
Non, je ne suis pas contre du tout, en fait. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, chaque fois.
On apprend.
C'est pas valide par rapport au droit moral français.
Voilà. Aucun juriste ne l'a démontré. Je sais qu'il y en a qui, effectivement, en conférence.
Si elle n'était pas valide, ça n'avait pas la licence Microsoft non plus. Donc,
le truc qu'il y a, c'est que si elle n'était pas valide, aucune licence de logiciel ne serait valide.
Voilà.
Ça, le truc. Sauf qu'effectivement, qu'en ce moment, c'est à la mode, c'est-à-dire que la GPL n'est pas valide, parce qu'il y a beaucoup de succès sur le chili. Il faut bien voir que si elle n'est pas valide, aucune licence d'informatique n'est valide avec les clauses qu'elle contient. C'est clair et net.
Sur l'histoire du retour, j'ai entendu quand même beaucoup de gens.
Sur l'histoire du
retour. Par exemple, du retour ou de l'appropriation aux ayants droit, en fait. Et j'ai entendu quand même beaucoup de gens. Hein. Et aussi, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas une seule traduction aussi valide en termes par rapport à la langue, en fait.
Est simple de maintenir une version unique qui est en langue anglaise, qui en plus a été par rapport au traité de Berne. Qui est valable en Europe, donc c'est beaucoup plus simple.
Oui, mais en termes de droit, c'est quand même assez étrange, en fait, qu'il n'y ait pas une ressource.
Ça dépend des droits, parce qu'en termes de droit, par exemple, si c'est en cours professionnel, que ce soit en anglais ou en français, ça ne change rien. si c'est entre consommateur et un citoyen, c'est la vente, et entre un consommateur et l'entreprise, c'est l'entreprise qui vend qui est responsable. Donc le droit est très complexe. Donc à la base, sur la version officielle, sur le monde anglais, il n'y a pas un souci. Après, par exemple, si vous donnez le service, par exemple, vous faites du service pour le logiciel libre, c'est sa responsabilité qui est engagée. Mais la partie droit est assez complexe dans l'informatique. Mais bon, on pourra en parler après. Par contre, tu voulais intervenir sur ce point.
Oui, sur ce coup, je voulais intervenir un petit peu sur l'échec ou la réussite du procès en fait, du CPL.
Je ne sais pas qui est le
Juste pour dire qu'en fait, à l'heure actuelle, si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est d'un point de vue purement médiatique, Microsoft base une énorme partie de sa stratégie sur la médiatisation de ses produits. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes, par exemple, qui ont entendu parler de la nouvelle, entre guillemets, révolution de Microsoft, qui est un petit boîtier de salon qui tourne sous OS Microsoft et qui permet d'enregistrer la télé, de jouer des films, de stocker sur la machine, du multimédia, etc. Or, la même chose existe en Android, mais il n'y a pas de publicité autour. Donc la conclusion, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui vont retenir telle ou telle chose parce qu'ils ont entendu parler, pas tel autre parce qu'ils ne la connaissent pas. Et l'affaire de Sco, pour y revenir, c'est un peu pareil, c'est vraiment du médiatique. Le procès, il va avoir lieu dans 3 ans, d'après ce que j'ai entendu, ce qui veut dire que pendant 3 ans, ils vont pouvoir polémiquer autour de ça. Sans doute que ça aboutira à non-lieu parce qu'a priori, il n'y a aucune preuve de ce qu'ils ont avancé. Tout ce qui a été, engagé comme recherche derrière pour trouver ce qu'ils ont raison ou tort, prouverait qu'en fait, c'est vraiment qu'une affaire médiatique qui n'aboutira à rien. Mais en attendant, je veux dire qu'ils continuent leur travail de médiatisation et de désinformation qui vise à faire que les gens aient plus confiance dans les produits Microsoft pour des affaires des questions d'image que dans les produits différents. Alors l'histoire, donc pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est SCO qui... Alors je vais faire une synthèse un petit peu...
Il faut que vous voulez racheter...
SCO qui reçoit une grosse subvention de Microsoft pour un produit qui n'a rien à voir et qui subitement se lance en guerre contre IBM qui est beaucoup plus gros en disant que IBM a introduit dans le code du kernel Linux des lignes qui leur appartiennent et qui sont brevetées. Ouais. Donc il lance un brevet autour de ça. C'est un gros raccourci. Hein.
Ouais, c'est un peu long parce que c'est un peu trop court. Par le biais de rachats successifs, ils ont eu entre les mains le source natif Unix System 5, qui est à la base qui est spirituellement à la base de Linux.
À la base de Linux, avant Linux, en fait,
le kernel
a été redéveloppé complètement. Le seul
oui,
truc,
mais
c'est qu'il est
spirituellement.
Oui, mais spirituellement, je veux dire, tout est spirituel. À partir du moment où on reprogramme quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Là, ils disent qu'en fait, il y a des lignes qui ont été copiées et collées.
Ouais, 7 lignes.
Ah, ah, ouais, bon. Donc, s'il y a des lignes qui ont été copiées et collées, les développeurs du kernel Linux ont dit que ça leur prendrait à peu près un quart d'heure pour les recoder sous une forme un petit peu différente. Bon, voilà sur quoi ça porte, quoi. Donc, je vous laisse.
Oui, il faut dire aussi que le SCO est en faillite quasi complète. Il faut dire aussi que ils sont propriétaires de certains droits d'APT, voilà, donc le premier Unix. Bon, c'est pas si simple que ça, mais apparemment ça va. Enfin, ils ont essayé de faire du chantage sur eBay pour qu'ils les rachètent pour leur actionnariat. Enfin, c'est assez complexe, mais ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, c'est quasi. La preuve, c'est que c'est quasiment inattaquable. Même avec cette ligne, il y a très peu de risques.
Qui peut nous parler de. Le premier Unix n'avait pas vocation d'être libre.
Il est universitaire, c'est avant que ATP soit cassé en cette société, c'est dans leur laboratoire de recherche. Ils ont voulu s'amuser à adapter un système d'exploitation à de vieux ordinateurs qui étaient jetés au rebut. Et ça a permis aussi, par la même occasion, de développer. Un langage qui est le B, puis après le C, voilà, je pense.
C'est un résumé. Voilà. Mais ça, non, c'est vrai qu'à l'origine, Unix n'est pas libre. C'était un produit propriétaire.
Il a été donné gratuitement aux universités américaines.
Voilà, avant qu'il soit effectivement refermé.
Et quelle a été la position des gens qui travaillaient sur l'Unix professionnel quand l'Unix est arrivé? Parce qu'il y a eu quand même une accaparation de.
Maintenant, chacun avait
des boîtes,
avait pas acheté des licences.
Parce qu'au début, Unix était un très gros système, et Linux, c'était quand même un gars qui a voulu coder pour faire tourner ça sur son PC, pour faire du débogage et pour faire ses tests chez lui. Donc c'est après, en fait, au fil du temps, que ça a pris un développement vraiment différent et que vraiment très longtemps après, les industriels ont commencé à les prendre un petit peu dans l'autre sens en disant mais finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça.
Ouais, et Microsoft avait déjà sorti un système Linux qui tournait sur ses 386. Il en existait deux, je crois, qui tournaient sur des petites machines. Donc c'est le Linux, il a voulu priver par rapport aussi à Tannenbaum que l'histoire microkernel et noyau, c'était un défi universitaire. Puis après, il a dit à la communauté, aidez-moi, on va en faire quelque chose. C'était dans sa thèse.
Est-ce que vous voulez qu'on parte sur d'autres considérations, les néophytes là,
bah, sur Linux, je voudrais pas vous dire un truc parce que je parle beaucoup de Linux aujourd'hui. Non, mais justement, justement, on parle beaucoup de Linux. Je dois rappeler que, je vais dire, expliquer exactement ce qu'est Linux, ce qu'est le logiciel. Rappelons que Linux n'est qu'un noyau, c'est-à-dire que c'est une petite partie d'un système qui permet notamment de gérer les accès mémoire, etc., les accès disques. Et ce que vous appelez, vous, Linux, c'est un ensemble de logiciels. Ah oui, non, mais c'est vachement important.
Ouais,
parce
c'est Stallman.
Non, c'est pas Stallman. Alors, bon, d'abord, sans Stallman, Linux n'existerait pas. Alors, si c'était Stallman, d'accord, il n'existerait pas. Mais c'est important de comprendre que dans le système propriétaire, la plupart des logiciels, il y a un seul éditeur. Dans le logiciel libre, il vient de plein de gens. Donc, ce que vous appelez Linux devrait s'appeler, alors selon Stallman, effectivement, Linux, c'est un ensemble de logiciels qui viennent de différentes sources. Et l'ensemble fait un système complet. Donc, ce que vous appelez Linux, effectivement, c'est l'ensemble complet. Mais en fait, la réalité, c'est que Linux, c'est qu'une petite partie du système qui est un noyau. Non, c'est très important. Parce que la plupart des gens après vous demandent, mais finalement, qu'est-ce que j'installe entre Mandrake, Debian, Red Hat, etc. Ils ne comprennent pas finalement la différence, ce que ça vient faire là-dedans. Donc la notion de distribution est importante. C'est-à-dire, au départ, c'est quoi Linux ? C'est un noyau. Si vous construisez un système, vous avez deux façons de le faire. Vous faites à la main, à la poêle. Vous êtes un grand garçon, une grande fille, vous êtes informaticien, vous êtes complètement malade. Donc vous installez votre système, un petit noyau. Vous installez tous les outils un par un. Donc vous installez votre compilateur, votre traitement, enfin l'ensemble. Et à la fin, au bout de quelques mois, vous avez peut-être quelques jours, vous avez votre système qui fonctionne. Les logiciels sont de différentes sources. Et puis vous avez des gens qui ont décidé que ça c'était trop compliqué pour les gens et qu'il y avait un business à se faire là-dedans. Ils ont eu raison. Ils ont créé ce qu'on appelle des distributions. Ils peuvent appeler des distributions Linux. En gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Mais ils l'ont fait une fois pour toutes de façon professionnelle. Ils ont mis Linux. Ils ont mis un certain nombre d'outils dessus qui font la base, la plomberie. Ils ont mis des applicatifs, donc OpenOffice, etc. Et il y a différentes sociétés ou différents groupes qui font ça. Et ces distributions, finalement, qu'ils appellent les distributions Linux, la principale différence qu'il y a, c'est pas tant les softs qui sont installés dessus, mais la façon dont on a d'installer la machine et de mettre à jour les logiciels. La principale différence entre Mandrake, une société française qui fait donc une distribution, Mandrake, Debian, qui est un groupe de bénévoles sur Internet, qui sont 1000, qui fait une distribution, qui s'appelle Debian, ou Red Hat aux États-Unis, c'est pas tant finalement les softs, même s'il y a des différences de version, etc. La principale différence et les plus importantes, c'est la façon dont on installe la machine et dont on maintient à jour la machine. On va prendre un exemple extrême, on prend Mandrake, notre française, donc Debian et des bénévoles,
Redflag
les Chinois. Ben, pour résumer, Mandrake, c'est un truc qui est fait pour le grand public. C'est super simple à installer. N'importe qui est capable de l'installer. Par contre, pour un informaticien, la maintenance, la mise à jour, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. Et si on prend Debian, c'est plutôt compliqué à installer pour quelqu'un qui, on va dire, est un utilisateur de base. Par contre, après, une fois que c'est installé en termes de maintenance, pour un administrateur comme par exemple moi, c'est un plaisir. Et ça, c'est aussi important dans le logiciel libre, c'est que vous trouvez les systèmes qui vous correspondent. Moi, quand ma copine est venue au logiciel libre, parce qu'elle avait marre de Windows, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux que j'installe, enfin, qu'est-ce que tu veux m'installer. Je lui ai dit d'abord, je ne t'installe rien, tu t'installes toi-même. Je lui ai dit, tu t'installes Mandrake, tu verras, c'est vachement bien, c'est tout simple et tout. Donc elle a installé Mandrake. Et deux ans plus tard, elle est passée à Debian, parce que finalement, elle trouvait que ce que je faisais sous Debian, c'était quand même mieux, et elle est passée à Debian. Ce que je veux dire, c'est que les gens trouvent le système dont ils ont besoin, mais c'est aussi l'un des désavantages du logiciel libre. C'est qu'il y a la multitude. La liberté implique la multitude de choix. C'est-à-dire que vous pouvez installer une distribution, on aura une distribution, et là, il y a peut-être 400 distributions ou 500 distributions dans le monde. Il y a quelques-unes qui sont au-dessus du lot. Mais contrairement au logiciel propriétaire classique, sur ces distributions-là, vous avez des logiciels qui viennent de différentes sources, et pas d'un seul éditeur. Donc quand on parle de Linux, généralement, c'est vraiment un raccourci. C'est-à-dire qu'on oublie tous les autres logiciels qui tournent au-dessus, tout, et par exemple, tous les logiciels qui font gérer Internet. Il faut comprendre par exemple que si vous pensez que vous n'avez jamais utilisé de logiciel libre, à partir du moment où vous avez utilisé une fois Internet dans votre vie, vous avez utilisé le logiciel libre. Dans tous les services d'Internet, c'est-à-dire les services, ces petits domaines fonctionnels qu'Internet gère. Par exemple, le courrier électronique, les serveurs web, les messageries, les listes de diffusion. Dans tout chacun de ces domaines, les outils qui sont majoritaires, ce sont des outils logiciels libres. Le serveur web majoritaire, c'est Apache. C'est un outil logiciel libre.
ce qui permet de faire la conversion des noms, des adresses IP en nom, enfin les adresses plutôt, le nom en adresse IP, c'est-à-dire ce qui vous permet de taper par exemple w3.free.org au lieu de l'adresse IP, c'est ce qu'on appelle le DNS, bang, c'est un logiciel libre qui fait ça à la base. L'architecture technique d'Internet est basée sur des logiciels libres. Et quelque part, c'est normal, parce que le développement d'Internet, c'est quoi? C'est des RFC, c'est des Request for Comments, c'est des trucs publics, où les gens peuvent publiquement donner leurs commentaires. Le logiciel libre, c'est quoi? C'est des Request for Comments dans le cadre du logiciel. Les gens ont accès au code source, ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent. Sans logiciel libre, Internet n'existerait pas. On n'aurait pas pu créer un Internet sur le logiciel propriétaire. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est important de comprendre la notion de distribution. Parce que quand on parle de Linux, c'est vraiment un raccourci. Un, qui d'abord oublie l'historique, parce que Linux, le développement de Linux du noyau, c'est 1991. On oublie tout l'historique. On oublie aussi toute la philosophie de Stallman derrière tout ça. Et surtout, on oublie qu'il y a plein de logiciels libres qui forment ce qu'on appelle communément Linux. Donc ça, c'est important de comprendre que distribution, c'est un noyau Linux avec des applicatifs, un programme d'installation et un programme de mise à jour. Et vraiment, la différence principale entre distribution, c'est vraiment plutôt sur les programmes d'installation et mise à jour. Peut-être des différences quelquefois de logiciels et de versions, mais je dirais que ça, c'est mineur par rapport à la façon dont on met à jour un système. Par exemple, sur une Debian, enfin un apt-get install pour parler techniquement, ou sur une Mandrake, on fait ça plutôt de façon user-friendly ou sur d'autres systèmes. Mais on trouve du logiciel libre pour tout le monde. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin, vous demandez une distribution Linux Mandrake, vous la mettez dans votre machine, vous pouvez tester. Et vous avez même des trucs qui sont encore mieux, tout ce qui est des systèmes libres, pardon, CloudPix, les systèmes live, c'est-à-dire c'est sur CD, ça n'installe rien sur le disque dur, vous mettez la galette dans votre lecteur de CD, vous rentrez, ça démarre, en général, pour du matériel, mais la plupart du matériel est quand même reconnu. Donc vous avez un système qui s'exécute, par contre, il n'y a rien sur le disque. Donc vous n'avez pas du tout cassé votre système. Vous pouvez vous amuser avec ce système-là, tester, et éventuellement l'installer après. Et chose intéressante, c'est qu'on peut garder son Windows à côté. Parce que pour ceux qui démarrent, il vaut mieux garder son Windows activé. C'est ce qu'on appelle le double amorçage, le multiple amorçage. Vous installez votre système libre à côté de Windows, il saura voir qu'il y a un Windows, il ne saura pas l'effacer, que l'inverse est totalement possible. S'installer un Windows alors que déjà votre système, c'est possible. Et à la fin, au démarrage de votre machine, vous aurez un menu contextuel, un menu qui vous dira est-ce que tu veux booter sous Windows, sur telle version de Linux, sur telle autre, etc. Et vous choisissez. Donc en fonction de l'utilisation que vous allez avoir, vous allez pouvoir booter sur un système ou sur un système Windows. Et généralement, au fur et à mesure du temps, vous allez plutôt avoir tendance à booter que sur le système libre. Parce que vous allez commencer à voir qu'il y a plein d'avantages sur le système libre.
Après, excuse-moi, moi je veux te dire un truc. À part les néophytes et les gens qui ne connaissent pas bien, moi j'ai remarqué, de mon point de vue perso, les gens qui disent Linux, c'est souvent des gens qui disent « Moi ce qui m'intéresse c'est la technique, tout l'aspect licence, tout l'aspect politique, tout l'aspect philosophique, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, moi je suis un technicien, etc. » Et finalement, ce sont des gens qui sont profondément conservateurs et réactionnaires et qui induisent souvent, si tu veux, la notion de produit. C'est-à-dire qu'après, Linux, ça devient un produit qui s'oppose à un autre produit qui serait Microsoft, et donc après, on a un faux débat pour savoir lequel est mieux des deux. Alors que dire GNU Linux, c'est vraiment un choix sociétal, c'est-à-dire qu'on défend la GPL, ça veut dire qu'on défend la communauté du logiciel libre, ça dépend qu'on défend des principes que libre n'est pas gratuit, ça veut dire que derrière, on défend une communauté et on défend un principe. On défend le logiciel libre, même si techniquement le logiciel libre peut être parfois de moins bonne qualité qu'un logiciel propriétaire. C'est-à-dire que GNU Linux, c'est dire que Linux sans le GNU, sans la communauté avant, sans Richard Stallman n'existerait pas.
C'est mon point de vue. Un peu sur
mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais je l'ai dit un peu, mais je pense fondamentalement.
C'est trop virulent par rapport au grand public. Je veux dire, c'est un danger, c'est paraître ayatollah dans ce domaine-là. Tu as raison sur il a aussi raison, mais il le fait de manière trop virulente. Et à la fin, c'est un danger, c'est d'être rejeté, de faire partie du
cercle. La preuve, c'est qu'ils étaient 3-4 au début, maintenant il y a une communauté de millions de personnes.
Question complètement de réel par rapport à ceux qui revendiquent justement le piratage et le fait de craquer des logiciels et qui disent que finalement.
Déjà, le piratage, le piratage est un mot.
Ceux qui utilisent pas le piratage, ils disent
bon, c'est un mot qui utilise. Ceux qui utilisent des logiciels propriétaires.
C'est mal.
Sans les acheter et en les
craquant. Utilisez logiciels. La réponse est simple, c'est utilisez le logiciel libre, vous ferez du piratage légal. Parce que ce que vous faites dans le logiciel propriétaire qui est illégal, dans le logiciel libre, c'est autorisé. Par contre, le terme piratage, c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Parce que ce que font ces gens-là, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon en termes légaux. Parce que le piratage, c'est un terme de propagande qui, en gros, dit que vous faites quelque chose de mal. C'est vrai que c'est illégal, mais socialement, moi, à la limite, je trouve tout à fait normal que les gens s'échangent des logiciels. Oui. S'ils ne peuvent pas se payer le logiciel, s'ils n'ont pas les moyens, je trouve ça totalement normal. Et pour ça, le terme piratage, il ne faut pas employer parce que c'est une propagande qui laisse croire, en fait, que ceux qui font ça, c'est des méchants pirates qui vont tuer des gens. Faire de la contrefaçon, ça n'a jamais tué personne. faire une copie de logiciel ou écoute, faire une copie d'un CD de musique, ça n'a jamais tué l'auteur, contrairement à ce qu'on va nous prétendre. Voilà, jamais. Donc le terme piratage, il vaut mieux l'éviter. Mais c'est vrai que nous, on dit que c'est illégal, donc il ne faut pas le faire, même s'il y a des choses illégales qu'on peut faire. Mais socialement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est simplement aider son voisin. Effectivement, c'est-à-dire, si tu viens chez moi, par exemple, t'as un bouquin, tu vois un bouquin qui plaît, si tu me demandes de te le prêter, je ne vais pas te dire non. C'est, socialement, je ne vais pas te dire non. Pourtant, je sais que je ne l'enverrai pas, le bouquin, généralement. Mais socialement, je ne vais pas te dire non. Ben, c'est pareil, on peut faire un logiciel. Voilà, par contre, la différence, effectivement, dans le soft, c'est que tu ne prêtes pas le bouquin, parce que ce n'est pas de l'immatériel. Dans le soft, tu prêtes carrément une copie. Donc, tu gardes en plus ta copie. C'est quand même magique.
Ceci dit, il y a un certain nombre de gens qui disent que les copies illicites de logiciels propriétaires, un peu trop diffusées, ça fait tout ça contribue à faire que
le
logiciel
c'est volontaire. C'est tout à fait volontaire. Et volontaire, c'est pour créer une base minimale. Et on dit aux gens dans les entreprises, d'ailleurs, copiez le logiciel que vous avez sur votre bureau pour le ramener chez vous, parce qu'effectivement, si vous les avez chez vous, ben, on va augmenter le nombre.
Et
vous n'aurez pas payé la première version, par contre, la mise à jour, un jour ou l'autre, vous la payez.
Je ne sais pas si ce n'est pas en train de changer quand on voit, par exemple, la GUI, la manière dont tu essayes de protéger la dernière version de Photoshop.
C'est en train de changer, en fait, par rapport notamment à l'évolution de
Des grandes entreprises qui font du logiciel ou autre prétendent que le piratage sont mauvais. C'est un peu. Ils se foutent de la gueule du monde, parce que si on regarde par exemple la console PlayStation, la première, en fait cette console elle a eu beaucoup de succès parce qu'on pouvait copier les CD plus facilement. Et donc c'est juste pour remarquer quoi, des fois les entreprises elles critiquent le piratage, mais en fait ils y trouvent leur intérêt aussi.
C'est souvent une stratégie, hein. C'est dans lequel de
permettre le piratage pour permettre la diffusion de produits.
L'idée c'était quand même de dire, l'idée c'est d'habituer les gens à utiliser les outils Microsoft pour avoir un effet de masse suffisamment conséquent pour qu'à un moment donné il n'y ait plus d'autre choix que de prendre ces produits-là.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu en train de changer des postes? C'est-à-dire que maintenant ils peuvent
alors aujourd'hui ils changent un peu
d'être un petit peu plus de fliquer un peu plus parce que les gens sont.
Ils changent de philosophie parce qu'en fait ils considèrent qu'ils ont atteint en fait la masse critique du point de vue grand public, et par contre ce qu'ils font c'est qu'ils subventionnent des écoles. Donc en fait l'idée c'est de dire on donne des licences, on donne du matériel, on donne tout ça à des écoles, à des gouvernements, enfin il y a des gouvernements africains là qui viennent de recevoir je sais pas combien de dizaines de milliers de machines, pour que tous les gens prennent l'habitude de ces logiciels là. Ils auront un peu de difficulté à passer à autre chose plus tard, et en fait, quand ce sera le cas, ce sera le moment où on les fera payer plein pot pour les licences. Donc en fait, c'est tout, ce sont des masses de population qui sont, sensibilisées à ces logiciels-là, pour que par la suite, en fait, ils fassent boule de neige et qu'ils fassent que tout le monde en rentre derrière. Alors, c'est en train d'avoir des évolutions qui sont assez récentes, notamment au niveau de Windows 2003 et d'Office 2003. Puisque toute la gestion qui a été amorcée par XP, toute la gestion en fait de la durée de vie du logiciel est en train de changer de manière assez profonde en ce moment, et ça se traduit aussi sur la possibilité ou pas de copier. Alors pour expliquer un peu, Office XP, donc c'est le premier logiciel que Microsoft a sorti qui demande à être activé. C'est-à-dire que quand on l'installe, d'abord il se lie à la machine sur laquelle on l'installe. Ensuite de ça, une fois qu'il est installé, on a 90 jours pour contacter Microsoft, soit par téléphone, soit par Internet, pour qu'il nous donne une clé d'activation qui change à chaque fois qu'on doit l'activer. Cette clé d'activation, elle permet de débrider en fait le logiciel qu'on veut activer et de l'autoriser à fonctionner. Ce qui veut dire que quand ce logiciel ne sera plus la version officielle et qu'il ne sera plus supporté par Microsoft, il n'y aura plus de clé d'activation, il faudra passer à une version différente. Donc tout ça, c'est l'évolution qui est en train d'être la matérialisation de ce que Bill Gates avait annoncé il y a à peu près 6-7 ans, quand il disait l'avenir c'est l'Internet, et dans la vision qu'on a de l'avenir, le logiciel ce sera plus un bien qu'on achète, ce sera un bien qu'on louera, un service qu'on louera, et on vendra plus de licence, on louera du service. Donc on est en train d'amorcer ça en faisant en sorte que les systèmes deviennent quelque chose de périssable, mais que les gens soient quand même, disons, conditionnés, qu'ils deviennent un petit peu dépendants et qu'ils soient un petit peu obligés de continuer à utiliser ça s'ils ne veulent pas avoir un trop gros choc dans leur utilisation quotidienne d'informatique. Avec 2003, il y a une nouvelle évolution parce que, indépendamment de tout ça, il y a dans les clubs de mise à jour, etc., successifs, et dans les licences d'installation maintenant, des clauses qui sont apparues qui font que, d'une part, on autorise les éditeurs
à scanner ce qu'il y a sur nos disques durs pour voir si les logiciels qu'on a sont des logiciels piratés ou non, et que si les logiciels sont obsolètes, je veux dire, plus supportés, considérés comme dangereux, considérés comme piratés, ben, on les autorise à les bloquer ou à les désinstaller dans certains cas, et on les autorise aussi à agir sur les documents qui sont liés à ces logiciels. C'est très grave parce que dans le cas d'Office 2003 lié avec Windows 2003, on a une nouvelle gestion de la sécurité qui a été mise en place, qui est implémentée au niveau hardware, c'est-à-dire qu'il y a une puce 2D dans l'ordinateur qui contrôle les fichiers qui s'ouvrent de manière physique. Et au niveau software, c'est-à-dire que le système d'exploitation Microsoft Windows 2003 envoie des informations et émet des requêtes en fait, chez des autorités de confiance pour savoir si ce qu'on veut faire est autorisé ou pas, et si ça correspond à la politique en fait, de l'éditeur ou pas, pour qu'on ait en fait la capacité d'ouvrir nos logiciels, mais aussi d'ouvrir nos documents. Éventuellement, si les documents qu'on veut ouvrir sont considérés comme non dignes de confiance, l'autorité de confiance a le droit de contrôle complet sur le document en question et peut décider de l'effacer, sans que l'utilisateur ne puisse faire quoi que ce soit.
Sur internet, justement à ce niveau-là, sur les prochaines versions à venir, il dit que quand vous aurez par exemple un office qui sera installé, quel qu'il soit, que ce soit 2004 ou 2005, si le document que vous utilisez ou s'il y a des logiciels qui appartiennent à Microsoft qui jugent qu'ils sont trop anciens, il pourra les effacer du disque, rendre les documents inaccessibles, effacer les documents ou carrément empêcher le démarrage du système de la machine et faire en sorte de pas cracher le disque, mais presque quoi. C'est un article qui est paru qui pour moi, je dirais, m'a un peu révolté. D'abord parce que bon, j'étais un utilisateur Windows basique, j'en ai un peu marre des écrans bleus que tout le monde doit connaître. Et la plupart du temps, je dirais, quand on doit réinstaller un système qu'il faut réactiver, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, quand vous lisez, je dirais, ce qui se passe, vous vous rendez compte que ben, tous les documents que vous avez ne vous appartiennent plus. Vous n'avez plus de vie privée, vous n'avez plus de vie publique. Tout ce que vous faites, au niveau, n'importe quel travail que vous faites sur l'ordinateur ne vous appartient plus. Donc aujourd'hui, moi je me dis, autant basculer. Bon, je ne connaissais pas, j'avais entendu parler de GNU/Linux, je ne connaissais pas en fait tout ce qui s'est dit là. Tout ce qu'il y avait avant, la manière dont c'est né. Donc j'ai lu un peu, j'ai acheté une Bible il y a 4-5 jours, je suis en train de m'y mettre, je ne comprends pas tout ce qui se dit au niveau, j'irais, intérêt politique là-dedans, parce que bon, ben, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, et je ne connais pas tout là-dessus. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est grave, c'est ce que Microsoft est en train de faire, c'est que tout ce que vous ferez à l'avenir ne vous appartiendra plus. Et il va avoir un droit de regard sur la vie publique, la vie privée des gens. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de très, très grave, plus que, j'irais, le fait, pour moi, de basculer. On en vient... Avant Windows 3.1, on parlait des mouchards, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. 95, il y en avait un peu. 98, il y avait les quelques mouchards. 2000, il y en a un peu plus. XP, il y en a encore plus. 2003, c'est la mainmise sur votre ordinateur. Qu'est-ce que ça va être, les systèmes suivants, quoi? Pour moi, c'est, je sais pas, donc comme il dit, c'est en train de changer pour pousser à la consommation, pour pousser la personne qui va gérer, acheter un logiciel, quel qu'il soit, simple, va être obligée, je dirais, de payer de plus en plus tous les mois pour que ça fonctionne correctement, quoi.
Ça va être répondre sur le plan politique pour que ce soit bien clair. Quand Thierry Benita dit que dans l'esprit de Microsoft, le fait de d'utiliser. Une distribution, c'est vendre un service. Ce qu'il faut voir, c'est que moi j'ai lu en regardant les textes fondateurs de l'Organisation mondiale du commerce, ce que les anti-mondialisations ne disent pas toujours, je leur reproche un peu, parce que je leur reproche un peu d'être resté dans l'image qui était le GATT avant. Le GATT avait comme enjeu le commerce des marchandises. Et à l'époque du commerce des marchandises, qu'on soit libéral ou anti-libéral, on avait la même définition de ce que c'est une marchandise. Je fais deux produits industriels, j'en vends un, il ne m'en reste plus qu'un. Donc, les conflits, ils étaient sur le prix des produits, ils étaient sur l'exploitation des gens, ils étaient sur le prix des matières premières, ce qu'on continue de poser. Mais l'OMC a été créé, que ce que tout le monde oublie, pour des accords relatifs au commerce transfrontière des services. Sans comprendre la notion de commerce transfrontière des services, on ne comprend pas pourquoi on est dans un monde dit multilatéral, pourquoi on est dans l'OMC.
parce que transfrontière des services, ça veut dire en dernière analyse que s'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas l'OMC. Parce que à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas sur Terre, c'est que tout à coup, alors que tout le monde est d'accord, même en s'opposant sur la problématique de la valeur, sur ce qu'est un bien, sur ce qu'est une marchandise, on n'est pas maintenant, il y a plusieurs définitions au service. La définition que donne Richard Stallman d'un service, ça pourrait être identique à celle d'un coiffeur. C'est-à-dire, il y a une prestation que je fournis à quelqu'un, et en échange de ma prestation, il me donne de l'argent. Donc, les services peuvent s'apparenter à des échanges commerciaux, quand d'un côté, il y a une prestation, et de l'autre, il y a un coût financier. Mais si le service, c'est toujours copier le même produit, c'est-à-dire un droit de passage.
Corriger la gueule, oui. Gérer sur une chose et le distribuer à quelqu'un qui a besoin et dire ben voilà.
C'est pas le même modèle économique. Ça veut dire que le modèle
économique. Moi je préfère participer dans le sens à quelque chose et gérer où je peux essayer d'améliorer ou alors je préfère participer dans ce sens-là plutôt que d'avoir gérer à payer sur quelque chose sur lequel je ne suis pas sûr en finalité de ne pas avoir un écran bleu qui m'a pas
fait. Je suis totalement d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire c'était l'enjeu mondial. Pourquoi c'est primordial? Parce que. Je prends l'exemple du conseil général, si je suis prof de collège, dans mon collège ils ont refusé de signer la convention pour les portables. Parce que si ça coûte une somme phénoménale et astronomique, qu'on va filer avec l'argent du contribuable de l'argent à Bill Gates, c'est de l'argent qui ne produit pas de la valeur, qui ne produit pas du travail. Si avec cet argent on avait produit, on avait donné à des ingénieurs en informatique libre de développer pour encadrer le produit, etc., on crée du travail. Le travail que ces gens-là ils créent, il va augmenter la richesse. Produite par les êtres humains, parce que l'information c'est la seule chose dont l'échange enrichit. J'ai deux infos, tu as deux infos, tu m'en donnes une, je t'en donne une, on s'enrichit tous les deux parce qu'on a trois infos. Tu as deux billes, je t'en vends une, il n'y en reste qu'une. Et toute la philosophie de Richard Stallman, c'est de dire que les lois, c'est pour ça qu'on ne peut pas profiter des logiciels, les lois qui régissent le monde des biens matériels ne sont pas applicables aux idées, au monde immatériel. La logique de l'OMC, de Bill Gates, du génocide, qu'il faut voir aussi que Bill Gates investit énormément d'argent en Afrique. Pourquoi faire pour sauver l'idée des brevets, que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, voilà pourquoi je suis révolté, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a eu, après la Shoah, un génocide à cause des brevets, que seul ACT-UP a dénoncé. C'est-à-dire que cette histoire de faire de l'argent sur du droit d'usage, ce n'est plus du libéralisme, c'est un retour à une logique féodale. Et là, on voit bien que le projet de Richard Stallman à l'ère de l'information est un choix de société qui n'est peut-être pas un choix idéologique entre socialisme ou libéral. Il ne se prononce pas là-dessus. Dans tout cas, c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'il dit libéral. C'est un choix de société pour défendre un certain nombre de valeurs des Lumières contre un retour à un système féodal. Parce que la logique de Microsoft, la logique des brevets sur le génome humain, la logique des brevets sur les plantes, la logique des brevets sur les médicaments, c'est une logique de droit de passage. C'est-à-dire, c'est une manière de gagner de l'argent sans produire de la richesse. Parce que la seule richesse qui peut être produite, elle soit par le travail vivant, je lui fais un service, je lui donne de l'argent, soit par une marchandise, je produis une marchandise, je te la vends et tu me donnes de l'argent. Ça, c'est acceptable. Si pour utiliser mon produit, je te dis, je te vends un service, c'est pas du service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition unanime maintenant pour dire ce qu'est un service, alors qu'il y avait une définition unanime pour dire ce qu'est une marchandise. Et donc, le logiciel libre, il est venu pour apporter une nouvelle définition du service qui est le travail socialement vivant, qui ne peut pas être le droit féodal où on paye une taxe pour avoir un droit d'usage. Et ça, c'est fondamental et ça va bien au-delà. C'est ça l'aspect politique du logiciel libre. C'est pas gros droit. Excuse-moi, j'ai fini là-dessus. Excuse-moi. C'est ce que j'ai voulu dire. Je peux très m'excuser. Mais tout ce que tu as dit avant, je partage. Pour moi, c'est ça, le logiciel libre. C'est un apport philosophique à l'humanité.
Et dans ces cas-là, c'est une lutte un peu inégale. Quand on voit ce baisse Microsoft,
on va gagner. On va gagner.
Et j'irai ce qu'il a. Et quand on voit aujourd'hui la communauté de Linux, elle pèse, ils ont dû dire ça, elle pèse pas très lourd face à gérer.
En attendant, je dis, il y a de plus en plus
quand même de actions. Ça dépend.
À la fin, ils vont perdre. C'est inévitable. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils sont en train de changer le modèle économique.
Peut-être pas d'ailleurs, mais j'irai aujourd'hui au niveau politique, ou même au niveau, j'irai, ce que pèse Bill Gates, c'est quand même relativement important par rapport
à... Oui, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Sur le long terme, on va gagner. C'est
quand même... Au niveau entreprise, quand même, il y a des évolutions quand même assez majeures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui décident de migrer des 10 000 postes, des 20 000 postes qu'ils avaient sous Windows, ils passent tous sous Linux.
Aujourd'hui, il y a HP qui a signé un accord avec Linux pour avoir ses serveurs.
Il n'y a pas d'accord avec Linux. Linux n'est pas une entité.
Pas un accord, mais ils utilisent aujourd'hui le système Linux sur leur gros serveur, sur leur gros système.
Oui,
et c'est ce sortent des machines qui sont préinstallées avec ce système.
Ça se fait de plus en plus. Alors moi, je veux dire, moi j'ai une petite boîte, je fais du développement là-dessus. Et ben, il y a des entreprises qui viennent me voir, qui me disent, ben, nous on en a marre en fait d'avoir des systèmes qui ne sont pas fiables, on en a marre d'avoir un système dont on est de plus en plus dépendant. Pourquoi ? Parce que ben, en fait, ils doivent changer une machine, il n'y a plus le système d'exploitation qui est utilisé sur tout le reste du parc. Donc s'ils changent une machine, du coup, pour homogénéiser, il faut qu'ils changent tout le parc. Une fois qu'ils ont changé tout le parc en système d'exploitation, ben, leur logiciel de production est tendu, donc il faut qu'ils changent tous les logiciels de production. Et les gens en ont marre de payer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc en fait, en passant à du libre, ben pour eux, c'est aussi un gage à un moment donné de dire ben, on part sur une solution pérenne. Et ce qu'ils investissent à un moment donné, parce que c'est pas gratuit, ils vont payer de la formation, ils vont payer de l'adaptation, parce que les gens, il va falloir qu'ils s'adaptent. Ça prend à peu près un mois, en gros, pour les gens qui ont vraiment l'habitude de Windows, de passer à une distribution différente. Tout ça, les entreprises vont le payer. Et s'ils comparent l'économie qu'ils font sur les licences de logiciels, la pérennité qu'ils vont gagner sur le long terme et le coût qu'ils ont sur le court terme, le calcul penche très largement en fait, dans la balance pour les solutions basées sur du logiciel libre. Et ça, je dirais que c'est la grande force, c'est de dire le libre, en même temps, indépendamment d'avoir des systèmes tout packagés, je veux dire, qui sont des solutions hyper polyvalentes pour tout et n'importe quoi, c'est une espèce de boîte à outils géante. Parce que du fait d'avoir l'accès à tous les codes sources, on peut les adapter et les assembler de la manière la plus optimisée possible pour un besoin spécifique. Et ça, les grandes entreprises l'ont très bien compris, et les petites sont en train de comprendre aussi que c'est vraiment un plus. C'est-à-dire qu'ils vont payer quelque chose parce qu'il y a du service autour. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est pas gratuit, c'est pas incompatible avec l'économie marchande. Mais par contre, ce qu'ils vont payer, ça va être quelque chose de purement efficace. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer, par exemple, une boîte qui marge à 80%. C'est vrai que quand on paye 100 euros une licence chez Microsoft, il y a 80 euros qui vont dans la distribution de dividendes et 20 euros qui vont au financement des développements. Donc là, en fait, on ne se place plus du tout dans cette logique. Et les gros industriels comme Sun et IBM l'ont très bien compris, puisque aujourd'hui, ils sont en train de plus en plus de lâcher leurs Unix qu'ils avaient développés à grands coups de milliards de dollars pour passer de plus en plus des investissements autour des logiciels libres. Je ne parle pas que de Linux, parce qu'en fait, il n'y a pas que Linux. Les logiciels libres, c'est pas que GNU Linux, il y a aussi GNU sur du BSD, il y a GNU sur d'autres systèmes. Linux, c'est pas un passage obligé, c'est aussi pour répondre à la remarque de tout à l'heure sur l'attaque contre Linux. Même si au pire Linux devenait illégal, il y a d'autres systèmes, d'autres kernels de base qui peuvent faire tourner tout le panel des logiciels qui sont dans GNU. Donc ça, il faut aussi le garder à l'esprit. Donc quand on parle aussi de pérennité, c'est aussi la pérennité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que comme tout est ouvert, on est sûr à un moment donné que si jamais il y a un élément qui posait problème, on pourra lui substituer un autre élément, parce qu'on sait faire de l'interopérable dans le milieu. Donc pour revenir à ce point de départ qui était Windows 2003, qui est en train de sortir, enfin qui est sorti, je crois maintenant c'est officiel, il y a l'implémentation dans 2003 de la nouvelle gestion des droits, le DRM, qui se base en fait sur une évolution du droit aux États-Unis, qui a autorisé la brevetabilité de pas mal d'éléments logiciels et qui a étendu les droits d'auteur pour faire en sorte que ce soit applicable. En Europe, c'est un petit peu différent parce que jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre n'était applicable. Il y a eu des directives qui ont rendu applicables les droits d'auteur, je pense, au niveau européen. Tu me dis si je me connais.
Bah oui.
Mais qui ne sont pas encore appliquées au niveau de chaque pays. C'est-à-dire que chaque pays, en fait, dispose d'une certaine marge de manœuvre sur la date à laquelle il va le rendre applicable et d'une très très faible marge de manœuvre sur le mode d'application. Et par contre, au niveau brevet, là, on a réussi à réagir, je pense, relativement tôt. Et disons que le texte qui a été proposé au niveau du brevet logiciel a considérablement évolué à la dernière lecture. Et je dirais que maintenant, on va attendre la réaction de l'industrie lourde du logiciel qui va sans doute contre-attaquer, mais on bouge un peu. Je ne sais pas, peut-être tu peux enchaîner sur...
Qu'est-ce qu'il y a de questions?
C'est possible d'approfondir un peu donc, de commenter, parce que c'est la dernière lecture dont on parle, elle date d'il y a 2-3 semaines à peu près, du truc, et donc ouais, je vais essayer de le lire, mais bon, comme.
Alors sur le premier logiciel.
J'aurais aimé qu'on explique un peu plus ce qu'il y avait dans ce texte. Quoi,
alors en gros, la première version du brevet logiciel, enfin disons qu'à l'origine, le brevet. Ça précise de manière très claire que les logiciels ne sont pas brevetables. Et ça, c'est la loi qui existe à l'heure actuelle. On n'a pas le droit de breveter un logiciel ou un algorithme. En fait, il y a une évolution qui a été proposée par McCarthy, c'est le parti libre anglais, donc le PS en fait d'Angleterre, qui a lancé ça donc à l'échelle européenne pour dire que dorénavant on propose que les logiciels deviennent brevetables et les algorithmes deviennent brevetables. Alors il y a eu des réactions, etc. Ils se sont montrés intransigeants au moment où le texte passera en l'état, et en fait ils voulaient le passer au vote au début de l'été. À la suite de ça, il y a eu pas mal de protestations et de sensibilisation des députés européens qui leur a fait prendre conscience qu'il y avait un problème derrière tout ça, un problème de fond, parce qu'ils n'ont pas l'habitude que les informaticiens bougent, et là c'est ce qui a été le cas. Ils ont décidé de reporter en fait le vote qui était prévu au début de l'été, ils l'ont reporté début septembre. Et en fait, après ils l'ont encore, je crois qu'ils l'ont encore reporté, je ne sais plus, c'est voté à ce moment-là. Non, c'est en octobre après. Ce qui a été modifié entre temps, c'est qu'il y a eu des conférences autour de ça. Il y a eu pas mal de monde qui a communiqué. Il y a eu des emails et des courriers qui sont partis à tous les députés européens pour qu'ils prennent conscience de la question. Et il y en a qui se sont prononcés, ce qui veut dire qu'il y a une prise quand même de conscience au niveau global. Et la députée anglaise qui avait dit « ça passera en l'état et sans amendement », elle a fait marche arrière sur sa position initiale et elle a pris en compte des amendements assez fondamentaux pour aboutir en fait à la conclusion qu'un logiciel pourrait être breveté s'il représente quelque chose de complètement novateur.
De
complètement novateur.
Un logiciel ne peut pas être breveté du tout. C'est pas ça.
C'est sur les
algorithmes. Et lié
non, c'est pas ça.
À un processus industriel et sociable.
Voilà. Les parlementaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a eu donc les communistes, les verts et les ultralibéraux du Nord qui se sont alliés avec les souverainistes qui ont voté contre. Et le reste des députés ont voté pour, mais avec des amendements. Sous prétexte qu'ils disent qu'on ne peut pas interdire, sous prétexte qu'une innovation technologique qui modifie quelque chose de la nature, donc la technique dans le texte de loi, il donne une définition du mot technique dans un langage abscond qui n'est pas celle qu'on pourrait utiliser dans le sens commun. Pour eux, technique, c'est ce qui modifie par une transformation physico-chimique quelque chose de la nature.
Et mécanique,
oui, physico, donc physique, mais dans ma tête physique.
Et c'est une langue spécifique.
Voilà, mécanique, physico-chimique, les quatre éléments de la nature. Donc ils sous-prétendent qu'une invention mobiliserait l'usage d'un ordinateur pour modifier quelque chose extérieur à l'ordinateur, on ne peut pas interdire de breveter. Donc ils ont dit, dans ce cas, et seulement dans ce cas-là, on peut breveter. Maintenant, ils ont dit, tout ce qui concerne l'intérieur de l'ordinateur, et après, ils spécifient, on ne peut pas breveter. Et ils spécifient ensuite, ils disent, on ne peut pas breveter un algorithme. On ne peut pas breveter, et c'est sûr, on a obtenu une grande victoire, ils disent pas un format de fichier, mais on avait peur, parce que des logiciels comme OpenOffice...
Ils ont dit qu'il fallait l'interopérabilité
des systèmes et choses. Et ils ont dit aussi, on peut pas, ils ont pensé au procès à Amazon, on ne peut pas breveter une procédure commerciale sur Internet. Le grand danger qui subsiste, c'est que, en ce qui concerne le reverse engineering, c'est-à-dire la décompilation, c'est-à-dire le fait, parce que aux États-Unis, par exemple, c'est illégal de faire même un driver 6 s'il n'y a pas de spécificité technique publique, etc. Là, il y a un grand danger. Ils ont dit, en ce qui concerne le reverse engineering, nous, on est contre le brevetage, mais c'est actuellement en train d'être décidé avec le UCD, avec la loi sur le droit d'auteur. Donc, il renvoie le bébé sur la directive européenne sur le droit d'auteur. Donc, en ce qui concerne le reverse engineering, il ne peut pas être breveté. Rien n'empêche qu'il y a un droit d'auteur qui dise que celui qui détourne des procédures de protection commet un acte illicite. Donc, là, la communauté du logiciel doit de nouveau se mobiliser sur cet aspect-là, parce que le reverse engineering n'est pas gagné.
Parce que ça rentre dans la gestion de
l'enjeu. Voilà, et là, on rentre dans peut-être
j'ai été trop. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire pour piloter, par exemple, piloter une carte graphique, il faut un élément logiciel qui va savoir piloter la carte graphique. Si on n'a pas les spécifications de la carte graphique, aujourd'hui, un des moyens les plus simples, plutôt que de tâtonner, c'est de prendre le système qui existe, de le décomposer, c'est-à-dire de voir, en fait, de rentrer à l'intérieur, de voir comment il est fait, et de faire quelque chose de similaire qui va répondre, en fait, aux mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on reconstitue le cahier des charges à partir de l'existant. Alors, si on n'a plus le droit de faire du reverse engineering, ça veut dire qu'on ne pourra plus reconstituer le cahier des charges à partir du logiciel existant. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire que par tâtonnement, ce qui complexifierait de manière vraiment très importante la création de logiciels
informatiques. Faire un lecteur DVD sur Linux Mint.
Non, mais l'exemple le plus connu, c'est les processeurs AMD, qui sont à 99 et quelques pourcents compatibles avec les Intel. Le code, c'est le X86, enfin là-bas. Ils ont analysé les procédures, comment fonctionner au niveau du résultat et pas à l'intérieur, parce que c'est pas si simple que ça. Et en plus, il faut le faire de manière cachée, enfin, comme en aveugle, comme barrer un bateau avec un bandeau sur les yeux, et savoir d'où vient le vent, et bien là, c'est la même chose. Ils ont eu le droit de le produire, mais c'est au niveau des tribunaux américains, parce qu'en Europe, ça ne s'est jamais produit, je crois, un procès pour reverse engineering. AMD a gagné, et ils ont pu produire un processeur compatible. Mais le fonctionnement interne d'un AMD n'a rien à voir avec celui d'un Intel. Mais au résultat, on arrive à ce que les logiciels... Or, c'est pas si simple que ça, parce qu'au début, à l'époque des 186-286, il y avait eu des concurrents qui essayaient de faire marcher des logiciels Microsoft, et ça ne fonctionnait pas du tout. La première donc, application aboutie pertinente d'un reverse engineering, c'était le X86. Et hier, tu m'en as montré un autre, sur le RTF ou le PDF, je crois.
Avec ce qu'il y a TCPA Palladium dont il a parlé tout à l'heure, et ben là il y a vachement de risques. Parce que si tu contournes une mesure de protection protégée par le droit d'auteur, ça interdit pas reverse engineering, parce que en France, les eurodéputés ont dit qu'il reste légal en Europe, contrairement aux États-Unis. Mais il risque d'être complètement restreint par le projet de loi sur la directive européenne sur le droit d'auteur. Et là, il y a un nouveau combat, c'est ce que dit pour le reste. Donc on a gagné en partie sur les brevets logiciels temporairement, maintenant il faut qu'on se rebatte ailleurs. D'autant plus qu'il faut que la communauté des êtres humains comprenne, c'est que le prêt des livres payants. Ben oui, parce que la conférence des présidents d'université a s'est mobilisée contre la nouvelle directive dite EUCD, dont là encore c'est grâce à la communauté du logiciel libre que le combat a s'est répandu en France, parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les inscriptions universitaires seraient quintuplées en termes de droits d'inscription, parce que dans cette nouvelle directive, le fait de lire un livre devient, si on ne paye pas, un acte de piratage. Donc, pour avoir le droit de publier des thèses, des machins, des trucs comme ça, chaque université serait obligée de reverser d'énormes droits à des sociétés au titre du fait que maintenant, il ne peut plus avoir de livre, la lecture devient payante.
Oui, mais tu payes déjà un droit pour tes propres œuvres.
Alors, juste une parenthèse sur cette histoire de gestion des droits, c'est que quand même, dans Windows 2003, il y a des processus de contrôle qui sont extrêmement complexes, qui font que, en gros, pour qu'un logiciel puisse s'exécuter, il faut qu'il soit considéré comme logiciel de confiance par l'autorité de confiance. Ça veut dire que, en fait, concrètement, l'ordinateur, on veut exécuter un traitement de texte OpenOffice qui est un logiciel libre, ça va demander au serveur central de chez Microsoft ou de chez n'importe qui d'autre si c'est un logiciel digne de confiance, et si le logiciel est considéré digne de confiance, il va s'exécuter. Mais si le logiciel, entre-temps, a été corrigé, parce qu'on veut le corriger, il ne rentre plus dans la base des logiciels dignes de confiance. Et pour qu'il y rentre à nouveau, il faut repayer, en fait, pour le faire homologuer par l'autorité centrale. Donc là aussi, il y a un très gros problème. Alors tout ça, en fait, est rendu possible par la gestion des droits d'auteur, qui, en fait, est, le prétexte officiel pour la mise en place de telles mesures de contrôle. Parce qu'en fait, le gros discours, c'est de dire ben, aujourd'hui, on a des virus qui circulent parce qu'en fait, ce sont des programmes qui ne sont pas dignes de confiance,
qui vont polluer les ordinateurs. Ce qu'on ne dit pas, c'est que s'ils circulent, c'est parce qu'on ne fait pas les correctifs au niveau logiciel pour qu'ils ne puissent pas rentrer, comme c'est le cas sous Linux. On dit qu'il y a du piratage au niveau multimédia, par exemple, dans les logiciels peer-to-peer, il y a des volumes considérables de vidéos qui sont échangées. Alors là aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après une analyse des sources, de d'où proviennent ces logiciels de multimédia qui sont échangés, on s'est rendu compte que dans 90% des cas, ça provient des majors du multimédia qui ont des fuites au moment de la réalisation des logiciels DVD. Vous voyez, quand ils font les maquettages des DVD, et ben c'est là qu'il y a des gens qui les prennent et qui les mettent en téléchargement.